On entend quelquefois dire que peu importe la religion qu'on pratique, de toute façon, il n'y a qu'un seul Dieu. Cette croyance est une hérésie parmi d'autres. En réalité, il existe deux personnes qui disent être Dieu. L'Éternel, le Créateur et le seul vrai Dieu, et Satan qui a pour titre le prince de ce monde. La croyance en la paternité universelle de Dieu et la fraternité universelle des hommes est une autre hérésie. Selon les Écritures, il existe sur Terre deux grandes familles, deux lignées, les enfants de Dieu et ceux du diable. Ça paraît dur, et je sais bien que cette affirmation est tout à fait inacceptable dans notre culture, mais c'est la vérité. J'ai lu que quelqu'un a dit qu'un enfant de Dieu ne devrait pas épouser un enfant du diable parce qu'il aurait des ennuis avec son beau-père. Cette remarque, qui se veut être un trait d'esprit, contient quand même un fond de vérité. Je connais plusieurs personnes qui, ayant fait confiance à Jésus-Christ, se sont quand même mariées avec quelqu'un qui ne partageait pas leurs convictions. Quelquefois, ce micmac s'est bien terminé puisque l'incroyant a placé sa foi en Jésus. Cependant, dans la majorité des situations, ça s'est plutôt mal passé et le croyant a dû abandonner la pratique de sa foi pour garder la paix dans le ménage ou alors il a beaucoup souffert afin de pouvoir continuer à vivre sa foi. Et s'il a eu des enfants, dans presque tous les cas, ceux-ci ont choisi les valeurs du monde plutôt que vivre pour Jésus-Christ. Dans les Écritures, Dieu se présente comme le Créateur de tout ce qui existe et en particulier de tous les êtres humains. Par contre, jamais il ne se déclare le Père de tous les hommes. D'ailleurs, Jésus a été particulièrement cinglant envers les chefs religieux de son temps à qui il a dit « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. » Je continue à lire dans le chapitre 3 de la première épître de Jean. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Verset 10. Avec l'expression « c'est ainsi », Jean récapitule ce qu'il a déjà dit. Il a rappelé que Jésus est venu pour ôter le péché et détruire les œuvres du diable. Et il a établi une distinction bien nette entre la lumière et les ténèbres, disant « Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. » Jean a aussi montré comment les enfants de Dieu se différenciaient de ceux du diable en fonction de leur façon de vivre. Tandis qu'un non-croyant affiche clairement ses couleurs, sa vraie nature, par le péché, l'enfant de Dieu doit manifester qui il est vraiment par un comportement qui soit conforme à l'éthique chrétienne, en menant une vie droite et en ayant de l'amour pour les autres et surtout pour les frères. Quand Jésus a expliqué comment repérer un enseignant de mensonge, il a dit « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. » Fin de citation. Les fruits sont bien sûr la façon de vivre. Mais que dire alors de ces êtres humains tout à fait extraordinaires qui se sont donnés sans compter pour les pauvres, les démunis et les parias? Je ne veux pas citer de nom, mais vous savez à qui je pense. Ces gens illustres qui ont beaucoup fait parler d'eux et qui sont cités en exemple, se sont littéralement sacrifiés pour les autres. Pourtant, à entendre ou à lire leurs témoignages, de toute évidence, la plupart d'entre eux n'avaient pas une foi personnelle en Jésus. Certes, plusieurs utilisaient le nom du Christ, mais ils lui adjoignaient d'autres figures religieuses. Ils ont œuvré au nom d'un idéal humaniste, religieux ou laïque, et ce qu'ils ont accompli est tout à fait remarquable et digne de louange. Mais pourquoi ont-ils tant donné d'eux-mêmes? Pensaient-ils gagner quelques mérites devant Dieu, comme Martin Luther avant qu'il ne se convertisse? Dès que cet homme fut admis au couvent des Augustins, il essaya par toutes sortes de pratiques ascétiques, mortifications, jeûnes et veilles, de gagner son salut tout en étant persuadé qu'il n'y parviendrait pas. Il dit lui-même qu'il avait accompli toutes les moineries possibles et imaginables, mais ce n'est qu'après avoir placé toute sa confiance dans le sacrifice parfait de Jésus qu'il trouva la paix intérieure. Je reviens à Jean. À partir d'ici, il va parler de l'amour fraternel chrétien. Pour lui, la pratique de la justice consiste à ne pas pécher et surtout à aimer les autres et principalement les frères. À ce sujet, Jésus a enseigné que le commandement le plus grand et le plus important était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et il a ajouté « Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Et l'apôtre Paul écrit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. En effet, des commandements comme « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. » En grec, il existe plusieurs mots qui sont traduits par « amour ». Il y a « eros » qui, dans la mythologie grecque, était le nom du dieu de l'amour sexuel et qui, comme son nom l'indique, a donné « érotique » en français. Il était le compagnon d'Aphrodite, déesse de la beauté, de la séduction et de l'amour. Eros n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Ensuite, nous avons philé, qui est à la racine du mot filial et de ses dérivés. Il signifie amitié, amour familial ou fraternel. Le troisième mot est agapé. Il est très fréquent dans les Écritures et désigne un amour pur, sincère et désintéressé. C'est avec cet amour que Dieu aime les hommes et c'est le mot que l'apôtre Jean utilise. Je continue le texte. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Verset 11. Jean s'adresse ici à des croyants. En disant dès le commencement, il rappelle que l'amour est le premier et le plus grand des commandements et répète ce qu'il a déjà dit et qui est « Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris, il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. » Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Fin de citation. Dans le chapitre suivant, Jean va enfoncer le clou, pour ainsi dire, en ajoutant « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour est la marque du chrétien et le titre d'un livre apparu en 1970. Dès les premières pages, l'auteur écrit « À travers les siècles, les hommes ont utilisé un grand nombre de symboles pour manifester qu'ils étaient chrétiens. Certains ont fixé des insignes à leur revers, d'autres ont porté des chaînettes à leur cou, d'autres encore ont adopté une coupe de cheveux particulière. Bien sûr, il n'y a pas de mal à cela, si l'on s'y sent poussé. Mais il existe un signe qui dépasse tous les autres, une marque qui ne devrait pas convenir uniquement à une occasion particulière ou à une époque donnée. C'est un signe universel destiné à durer pendant toute l'histoire de l'Église jusqu'au retour de Jésus. Quelle est cette marque distinctive? À la fin de son ministère, Jésus entrevoit sa mort sur la croix, le tombeau ouvert et son ascension. Comme il sait déjà qu'il doit quitter ses disciples, il les prépare à ce qui va se passer. C'est alors qu'il leur précise ce que sera le signe distinctif du chrétien. « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est ce passage qui nous fait connaître la marque donnée par Jésus lui-même pour caractériser le chrétien, marque valable non seulement pour une époque donnée ou pour un seul lieu, mais pour toujours et partout jusqu'au retour du Christ. Fin de citation. Tout le Nouveau Testament fait écho à ces paroles. Les apôtres Paul et Pierre écrivent respectivement « Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Fin de citation. Il n'y a donc rien qui soit nouveau ou sans précédent dans l'enseignement de Jean, selon lequel les chrétiens se reconnaissent à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Cette insistance de Jean sur l'amour fraternel est due à l'influence dévastatrice des hérétiques dans les églises du premier siècle. Ils avaient réussi à se faire passer pour de véritables croyants et commençaient à propager des enseignements erronés dans plusieurs domaines et en particulier sur la nature du Christ. Or, ces faux docteurs n'étaient pas caractérisés par l'amour, bien au contraire. Ils étaient égocentriques et arrogants. Face à cette situation, Jean rappelle à ses lecteurs ce qui leur avait été annoncé, ce qu'ils avaient entendu et cru au tout début de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet enseignement était la vérité au sujet de la personne de Jésus-Christ, au sujet de la condition de péché des hommes, la nécessité d'obéir à Dieu et de mener une vie juste, ainsi que le commandement de nous aimer les uns les autres. L'apôtre exhorte ses lecteurs à se remémorer ce qu'ils ont appris au tout début de leur vie chrétienne et à ne laisser personne les tromper. Dans un sens, l'amour pour les autres est un commandement ancien, puisqu'il apparaît déjà sous la plume de Moïse. Mais d'un autre côté, il est nouveau, parce qu'avant Jésus, personne n'avait fait la démonstration de l'amour pur et véritable. C'est par cet amour qu'il a donné sa vie en sacrifice pour les hommes. Lui-même a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Je continue le texte de 1 Jean. « Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. » Verset 12. Avant d'expliquer à ses lecteurs ce qu'est l'amour et comment il se manifeste dans la pratique, Jean dit d'abord ce qu'il n'est pas. Les Écritures mentionnent plusieurs individus sinistres, et parmi ceux-ci, Caïn tient probablement le haut de l'affiche. Il y a eu des personnages plus sanguinaires que lui, mais il est le premier à avoir permis au diable de le dominer et de l'influencer au point de commettre l'irréparable. C'est la jalousie rancunière de Caïn qui l'a conduit au meurtre, sa haine à l'égard de son frère Abel, que l'Éternel avait déclaré juste, sert de contre-exemple au commandement d'aimer son prochain et son frère. Tout comme Caïn, les hommes méchants ont de la haine envers ceux qui mènent une vie droite et pieuse. Jean nous dit que Caïn appartenait au diable, c'est-à-dire au royaume des ténèbres. C'était aussi la situation des religieux juifs qui, à l'instar de Caïn, ont haï la vraie justice personnifiée en Jésus et se sont démenés comme des diables pour le faire mourir. D'ailleurs, Jésus leur a dit qu'ils avaient le diable pour père. Le mot grec rendu par diable dans le texte de 1 Jean signifie un mal déterminé, agressif et zélé, comme par exemple des cellules cancéreuses métastatiques qui prolifèrent dans un corps afin de le détruire. Caïn a égorgé son frère. Le mot pour égorger veut dire infliger une mort violente, massacrée. On l'employait pour décrire le sacrifice des animaux qui étaient offerts à l'Éternel. Il faut comprendre dans quel état d'esprit était Caïn quand il a tué son frère. Il s'est dit quelque chose comme ça. « Ah bon, Dieu n'accepte pas les fruits de la terre, c'est un sacrifice qu'il veut, eh bien je vais lui en donner un, ce sera Abel, mon frère. » Je continue le texte de 1 Jean. « Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. » Verset 13. D'habitude, Jean s'adresse à ses lecteurs avec le terme affectueux « mes enfants ». Mais ici, il les appelle « frères ». Et ce sera la seule fois dans cette épître. Tout comme Caïn avait de la haine pour Abel, le monde en tant que système dominé par Satan a de la haine pour les croyants. En disant à ses lecteurs de ne pas être surpris de la haine du monde envers eux, Jean ne fait jamais que rapporter les paroles de Jésus qui a dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez, mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. » C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. Dans le livre des Actes, on lit que Paul et Barnabas fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi, car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et les apôtres Paul et Pierre écrivent respectivement « En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Les gens de Nazareth ont rejeté Jésus, l'un des leurs, et ont même essayé de l'assassiner après avoir entendu un seul message de sa part. Les chefs religieux ont comploté la mort de Jésus et sont parvenus à leur fin. Les apôtres furent tous persécutés et moururent martyrs, sauf Jean, qui fut exilé. Comme le monde a Satan pour prince, il a toujours eu de la haine pour les véritables croyants. Cependant, il ne faut pas non plus tendre le bâton pour se faire battre et donc confondre la persécution qui est due à mon témoignage pour Jésus avec celle qui est de ma propre faute, à cause de mon comportement odieux, hypocrite ou arrogant. D'une manière générale, et malgré les belles paroles de tolérance du genre liberté, égalité, fraternité, les non-croyants supportent très mal les véritables croyants pour plusieurs raisons. Ils sont irrités du fait que nous croyons que tous les hommes sont des êtres tellement dépravés qu'il a fallu que le Christ meure sur la croix pour leur donner la possibilité d'être rachetés et pardonnés. Ils n'admettent pas que si Dieu il y a, il n'existe qu'un seul chemin pour parvenir jusqu'à lui, et c'est par Jésus. Ils sont consternés par le fait que nous rejetions la théorie de l'évolution. Notre foi, simple et sans compromis, nos convictions dans le domaine moral et notre style de vie les met mal à l'aise. Un croyant qui mène une vie droite et pieuse est comme un gros doigt accusateur qui donne mauvaise conscience aux mécréants, alors il voudrait se débarrasser de nous. Aujourd'hui encore, dans le monde, des croyants sont persécutés par les enfants du diable et meurent.